Salut à tous, c'est François au micro. Après quelques années passées à vous parler d'autres musiques, je vous retrouve à présent pour une nouvelle émission exclusivement consacrée au rock. Au rock, au vrai, celui des origines. Pas de digression vers le punk, la cold wave, la techno ou encore le grunge. On va parcourir ensemble le monde d'avant, les années bénies de 1968 à 1983, l'âge d'or du rock, les 15 glorieuses. 15 on the Rocks, donc un voyage entre l'album de 68 de Hendrix, Electric Ladyland, qui le met au sommet de son art, et le premier disque de Metallica, Kill Them All, en 83, qui fait prendre un virage au hard vers des sons plus thrash metal. Et un peu arbitrairement, je fais démarrer cette période au moment où le hard rock prend un essor considérable, surtout en Angleterre avec l'explosion du British rock, ces années où monte la puissance du psychédélique jusqu'en 1971. Un sommet est atteint au milieu de la décennie des 70s, et sur sa force, ce rock inspiré, primaire, puis plus recherché mais toujours plein d'énergie, nous amène au début des années 80. À partir de 83-84, d'autres styles, à mon avis moins essentiels, moins intéressants, prennent le relais. Alors au tout début, au milieu des années 60, il y a les prémices du hard chez les Yardbirds, avec trois génies de la guitare, même s'ils n'ont pas joué simultanément dans ce groupe, c'est Jeff Beck, Eric Clapton et Jimmy Page. Ils enregistrent, à mon avis, les premiers solos de guitare à consonance vraiment rock, voire hard. Alors, 68, pour moi, la première année de référence, naissance du hard, avec entre autres la formation de Led Zeppelin, qui sort son premier disque cette année-là. À tout seigneur, tout honneur, un premier titre pour ouvrir la fabuleuse saga du rock, le premier morceau du premier album de Led Zepp, 1968, Good Times, Bad Times. Led Zepp, c'est une vraie révolution culturelle. Chaque concert laisse le public abasourdi. La recette, une simplification du blues de Chicago, qui devient de plus en plus évidente avec les années. Le tout avec la virtuosité vocale de Plant et la formidable rythmique de Jones et Bonham. Dans le deuxième opus, on puise encore du côté des bluesmen anciens, vers chez Howlin' Wolf ou Sonny Boy Williamson. Ce que l'on sait peu, c'est que Jimmy Page invite Eddie Kramer à la production, qui avait fait, entre autres, le son de celui qui est et demeurera le plus grand guitariste de tous les temps, Jimi Hendrix. Le producteur Kramer façonne le son Led Zepp comme il avait fait celui de Hendrix. Après le fabuleux Are You Experience, l'Américain sort en 68, cette même année, l'incroyable Electric Ladyland. Ce pur génie ouvre des dimensions révolutionnaires à la guitare, et d'ailleurs Clapton lui-même ne s'en remettra pratiquement jamais, et c'est ce qu'il racontait. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai entendu Hendrix, j'ai l'impression d'être un tout petit bonhomme. Hendrix décède dans les conditions que l'on connaît en septembre 70. On a d'ailleurs fêté ce triste anniversaire des 50 ans de sa disparition. Et cela après un ultime album, Band of Gypsies, un live qui clôt les enregistrements officiels du génie. Mais on reste à présent en 68 avec Hendrix sur Electric Ladyland, un album phare pour notre période et le légendaire Voodoo Child. Vous pouvez monter les amplis, c'est une vraie claque acoustique. We'll be right back. Parmi les dinosaures du Hard, il y a aussi un groupe britannique formé en 68 par deux vrais gamins qui ont à peine 18 ans. C'est le groupe Free, dont les fondateurs sont les prodiges Paul Kossoff à la guitare et Andy Fraser à la basse. Tous deux sont des passionnés de blues. Fraser vient de tenir la basse pendant 6 mois dans la formation de John Mayall et les deux ados veulent leur groupe en propre à eux. Alors ils recrutent un chanteur d'exception, Paul Rodgers, futur entre autres Bad Company et aussi futur Queen à la mort de Freddie Mercury. À partir de leur première formation, Black Cat Bones, le trio devient Free. Le groupe crée un rock lourd, huileux, aux riffs sensuels, au son rock. Le premier LP sort en 69. Mais le chef-d'œuvre est le suivant, intitulé très sobrement Free. Dans ce disque, des hymnes comme Fire and Water ou encore plus connu All Right Now. Sortons des sentiers battus, si vous le voulez bien, écoutons un titre moins connu de l'album, c'est Mr. Big. On est en 70 et c'est le groupe Free.
We'll be right back.
Dans cette nouvelle émission, 15 on the Rocks, on aura des rubriques, et notamment la rubrique hymne, des morceaux étendards entrés dans la légende derrière lesquels tout le peuple du rock se reconnaît et se rassemble. Notre premier hymne, tiens un clin d'œil à Dudu, un fan s'il en est, c'est un extrait d'un album des Stones, le génial Honky Tonk Woman. Ce morceau sort en 69, juste après le décès de Brian Wilson. C'est déjà donc Mick Taylor qui est à la seconde guitare qui le remplace. Mais alors pourquoi ce titre est-il un hymne ? Ben c'est parce qu'il est pour moi la quintessence du son des Stones. L'année d'avant, le guitariste américain, un pur génie, Ray Cooder, a rencontré Keith Richards et lui a montré une nouvelle façon d'accorder sa guitare. Richards travaille ce nouvel accordage. Il enlève la sixième corde, la basse, et accorde à l'octave la corde haute, la première avec la troisième, et encore à l'octave, la deuxième avec la quatrième. Alors, comme le raconte Richards dans son autobiographie Life, cela ouvre des possibilités musicales incroyables. Il évoque même la résonance ancestrale des musiques tribales africaines quand il raconte cela. Qui l'eût cru, les Stones, sous l'influence de la fameuse cora africaine, cette guitare traditionnelle créée à partir d'une simple calebasse. C'est désormais le son du groupe, qui est inimitable, de Tumbling Dice à Start Me Up, de Jumping Jack Flash à Honky Tonk Woman donc. Et alors, en plus, il se trouve que j'ai le vinyle original de ce titre, un exemplaire de 69 avec sa couverture déca de l'époque. Un 45 tours dont la face B est, excusez du peu, You Can't Always Get What You Want. Deux morceaux importants dans l'histoire du groupe. Mais on va rester sur vraiment un hymne, le vrai hymne des Stones à mon avis, Honky Tonk Woman, un morceau de 69, un vinyle qui crache, mais c'est un vrai original et un son absolument incroyable.
New York City.
J'espère que vous avez dégusté les paroles de cet hymne en quittant Woman par les Stones, un titre assez misogyne, je dirais même cynique, que nos excellentes amies féministes bloqueraient aujourd'hui. Mais quel bonheur, nous étions au temps où la parole était libre, pas encore de morale totalitaire et encore un certain sens de l'humour bien partagé. Une autre époque donc. Alors faisons un saut dans les années, passons aux États-Unis pour découvrir un groupe phare du début des 70s. Il s'agit des New Yorkais du Blue Oyster Cult, le culte de l'huître bleue, un groupe totalement sous-estimé en France mais très connu partout ailleurs. Un groupe brillant, souvent cité, comme les Black Sabbath américains. Alors ils tirent leur nom d'un poème de leur parolier qui n'est autre que leur producteur, Sandy Pearlman, lui-même qui utilisait cette expression « Blue Oyster Cult » dans l'un de ses poèmes. Et c'est d'ailleurs dans l'un de ses autres textes de l'album de 1974 « Secret Treaties », le morceau ME-262, que l'expression « Heavy Metal » apparaît pour la première fois. Pearlman mentionne dans ce poème des « heavy metal fruits » quand il évoque les bombes lâchées par les Messerschmitt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors on est aux États-Unis, une partie du public américain prend à s'emparer, comme toujours, du premier prétexte pour ériger la bonne conscience en dictature intellectuelle, va immédiatement reprocher au culte d'être antisémite. C'est un comble quand on sait que plusieurs de ses membres sont issus de la communauté juive de New York et eux se sont bien bidonnés face à ces attaques. Alors, on va laisser parler les imbéciles. Secret Treaties est un album phare de la décennie. Le culte y produit un rock froid, métallique, d'une précision chirurgicale, avec une maîtrise technique virtuose, notamment chez le guitariste Buck Darma, qui est considéré là-bas comme l'un des meilleurs instrumentistes du rock. À noter pour ce groupe la présence d'un clavier, Alan Lanier, qui vit alors avec Patti Smith. Et Smith signe pour le culte les paroles de nombreux morceaux, de plein d'albums. Alors justement, je vous propose d'écouter ce texte de Patti Smith sur le premier titre de l'album, Secret Treaties. Nous sommes en 1974 et Career of Evil ouvre ce disque, Secret Treaties, le Blue Oyster Cult.
Daughter on a dirt road.
J'avais eu la chance de voir sur scène le Blue Oyster Cult en juillet 79 à Louisville dans le Kentucky. Un superbe concert, même si vous imaginez aux États-Unis dans les années 70, un petit peu enfumé, point de suspension. Mais ceux qui avaient cassé la baraque ce soir taurine de juillet dans le sud américain, c'était des Irlandais, assez incroyables, qui passaient en special guest avant le Cult. Il s'agit des fantastiques, et je pèse mes mots, Thin Lizzy, qui avaient déjà conquis l'Amérique quand ils y avaient tourné tout l'été 76 en première partie de Queen. Thin Lizzy, c'est pour moi l'un des 4 ou 5 groupes majeurs de toute l'histoire du hard, parce que l'idée par un bassiste exceptionnel, Phil Lynott, un métis irlandais au sang de Guyana par son père, et il crée une musique absolument particulière. Il introduit un groove incroyable et une musicalité toute nouvelle dans les décibels des duels de ces deux guitaristes. Alors, 79, qui est-ce qui compose Thin Lizzy? Il y a le guitariste californien Scott Gorham. Et puis en deuxième lead guitar, on a quand même, excusez du peu, le légendaire Gary Moore. Sur scène, vous imaginez une énergie, une virtuosité, des mélodies puissantes qui s'ancrent en vous et ne vous lâchent plus. À ce jour, moi, c'est le meilleur concert, sans hésiter, que j'avais jamais vu. Alors, ils venaient à l'époque de sortir leur album Black Rose, qui était enregistré à Paris. Ils n'avaient pas fait dans la demi-mesure, ils avaient pris le producteur de T-Rex et de David Bowie, le célèbre Tony Visconti. Et juste avant de sortir Black Rose, en 79, ils avaient délivré le double live que tout amateur digne de ce nom se doit d'avoir dans sa discographie hard. C'est le célébrissime Live and Dangerous, paru en 78. C'est le live de notre émission, c'est tellement bon d'ailleurs qu'on va se passer deux morceaux à la suite. Thin Lizzy en concert en 78 avec le célèbre Boys Are Back in Town que vous reconnaîtrez forcément. Et puis notre pépite, Don't Believe a Word. We'll be right back. Voilà ce que le chroniqueur de la rubrique rock de Télérama, Hugo Casavecchi, écrivait récemment sur Thin Lizzy. L'enfant métis de Dublin, bouille canaille et charme insolent, après des années de galère en seconde division du hard britannique, avait fini par vaincre les éléments avec le coup de génie qui lui inspira The Boys Are Back in Town. Un tube épique au souffle springsteenien qui rappelait enfin que le heavy rock, sans perdre une once de sa puissance, pouvait être aussi fin. Grâce à la voix chaude du leader bassiste, salutaire alternative aux hurleurs suraigus de rigueur, à ses textes lyriques peuplés de bad boys romantiques en quête d'absolu, et grâce à un sens du groove totalement inédit qui s'est toujours gardé de verser dans l'infâme fusion. Sans oublier, bien sûr, cet art de déringardiser les sauts de guitare acrobatiques délivrés à l'unisson ou en opposition par un tandem antagoniste, Scott Gorham, lisse-beau-gosse américain, et en studio, Brian Robertson, teigne écossaise qui maltraitait aussi bien sa Gibson qu'il infligeait des bourre-pifs à discrétion. En 76, donc, Thin Lizzy avait retrouvé la formule magique, celle que cherchait Lynott depuis ses débuts en power trio, avant de troquer le virtuose Eric Bell contre son duo d'habiles gratteurs complémentaires, s'inspirant de la recette à succès du Wishbone Ash, mais un Wishbone Ash charismatique, doté d'un véritable songwriter. Vous avez compris, je suis un inconditionnel de Thin Lizzy, un groupe que je vous passerai régulièrement. Alors, autre rubrique que nous ouvrirons tous les mois dans 15 on the Rocks, une séquence qu'on va appeler peut-être slow rock, qui nous permet de voir que les rockers ont aussi un cœur, une sensibilité, et qu'ils peuvent se laisser aller à des moments plus calmes, plus intérieurs, ce qui donne souvent de très belles mélodies. Le premier morceau de cette rubrique slow rock, c'est du côté de Fleetwood Mac que je suis allé la chercher. C'est le très beau Beautiful Child, tiré du double album Tusk, sorti en 79. Un album un peu fouillis, très riche, quasiment inécoutable dans sa continuité, car il y a des morceaux à la limite de l'inaudible. Mais quand le duo de femmes Christy McVie et surtout Stevie Nicks prennent les compos et le chant surtout, ça devient magique. Rubrique très soft, donc, une fois n'est pas coutume, un thème magnifique composé et chanté par Stevie Nicks, c'est Fleetwood Mac en 79, le titre du morceau « Beautiful Child ».
You say it will be harder. trusting, yes, but then women usually are. I'm not a child anymore. I'm not a child, I know.
For the stars,
I will do as I'm told. But you don't say yes.
Even if I never hold you,
I wish that you were mine.
Hold you,
I wish that you were mine.
Even if I never hold you,
well, I wish that you were mine.
Hold you,
well, I wish that you were mine.
Dans l'histoire du rock des années 68-83, il y a tout un pan de cette musique qui relève de ce qu'on a appelé le rock sudiste. Le groupe phare de ce rock US aux origines rurales et folk, c'est évidemment Lynyrd Skynyrd, dont le morceau de bravoure est Sweet Home Alabama. Mais le chanteur et songwriter de Lynyrd Skynyrd, le fameux Ronnie Van Zant, a toujours refusé l'étiquette de rock sudiste. Il a toujours clamé que rock sudiste, ça n'était rien qu'une arnaque marketing, je le cite, créée par les maisons d'édition et les critiques de presse. Pourtant, il me semble qu'il y a bien un style qui relie Lynyrd Skynyrd à ZZ Top, à Point Blank, Molly Hatchet ou encore 38 Special. Voilà comment le spécialiste rock Denis Prota, auteur d'une encyclopédie sur le hard rock, le définit, ce fameux rock du Sud. Le hard rock sudiste est un condensé de sensibilité, de délicatesse, de chaleur, avec ses voix gorgées de feeling mélangées à une énergie vitale et surtout de sublimes ballades à construction gigogne et leurs différentes structures superposées. Des arpèges moelleux, la voix, la batterie, tous les instruments entrant progressivement en lice pour finir sur une explosion. Un véritable déluge électrique avec des solos époustouflants vers un véritable chaos paroxysmique. Pensez notamment à Freebird de Lynyrd Skynyrd, autre chef-d'œuvre du groupe. Alors c'est le premier opus du groupe qu'on découvre aujourd'hui et le morceau d'intro de cet album, publié en 1974, intitulé Pronounced Lynyrd Skynyrd. C'est en fait le nom de leur professeur de sport, Lynyrd Skynyrd, quand ils étaient ados. En fait, il s'appelait Leonard Skynyrd, qui inspire ce nom bizarre de groupe. Et même si ce n'est qu'en 1974 qu'ils sortent leur premier LP, ils tournaient déjà depuis au moins 10 ans. Voilà donc la référence, pour moi, le meilleur groupe américain de sudistes, la crème du sound and rock à trois guitares, Lynyrd Skynyrd dans le magnifique Tuesday's Gone.
At home, Lord, and Tuesday. She had to be free, Lord, but somehow I got to carry on.
Faire un petit retour en arrière aux racines du hard et terminer là-dessus. Je parlais en début d'émission des Yardbirds, de Page, de Clapton ou de Jeff Beck. Eh bien, croyez-le ou non, beaucoup ont vu chez les Beatles le premier morceau vraiment hard de l'histoire du rock. L'anecdote est assez incroyable. En 67, les Who sortent leur titre I Can See For Miles sur l'album The Who Sell Out. Le guitariste Pete Townshend fait la promo du disque et déclare que ce titre offre, je le cite, un son lourd et brutal. Et que c'est le morceau le plus dur que les Who aient jamais enregistré. Il se trouve que Paul McCartney entend cette interview à la radio et se met à rigoler. Le gentil Maca, auteur de Yesterday ou d'Eleanor Rigby, se pique au jeu. Pour lui, le titre des Who n'est absolument pas hard et il écrit par défi, sans le concours de Lennon, un vrai condensé de sauvagerie pour l'époque, en 68 donc. C'est Helter Skelter qui est publié dans le fameux double album blanc. Pour beaucoup, donc, et je suis pas loin de penser comme eux, c'est le vrai premier morceau de hard de l'histoire du rock. C'est McCartney, donc, qui l'a écrit. Jugez-en vous-même. À mon avis, c'est assez sauvage. C'est les Beatles avec Helter Skelter. On va se quitter là-dessus. 15 on the Rock, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle émission vous plaira. Vous me retrouvez donc un mercredi sur deux à 19h et un samedi sur deux à 16h. Et surtout, n'oubliez pas, comme le dit Neil Young, rock and roll will never die.
To the bottom, I go back to the top of the slide. Where's that?